maintenant. Où on va maintenant?
J'en sais rien, tu nous emmerdes.
N'empêche que j'aimerais bien savoir où on va, comme ça. Simple curiosité.
Mais il t'a dit qu'il en savait rien, que tu l'emmerdais, alors...
Te fais pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange. T'as jamais de vraie raison de se bider. Ils peuvent pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un.
On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où. Jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
Pourquoi pas?
Les routes musicales sur Couleur FM.
Bonjour. Pour ce troisième numéro des routes musicales, nous prenons aujourd'hui la route des campagnes françaises. Après les grands ensembles urbains, nous voici sur les routes de nos espaces ruraux. Les campagnes sont aujourd'hui donc moins peuplées et moins agricoles qu'au XIXe et XXe siècle. On leur attribue aujourd'hui de nouvelles fonctions. Vous avez bien remarqué, les campagnes françaises sont plus celles du XIXe et du XXe. Alors elles ont des nouvelles fonctions plus productrices, récréatives, résidentielles. Or, les spécialisations qui se faisaient dans les espaces urbains, mais aussi dans les espaces ruraux, s'effacent. Les critères pour définir un espace urbain ou définir un espace rural deviennent très difficiles à définir. Et c'est là que la notion de périurbain apparaît aujourd'hui. Alors, vit-on dans les campagnes de la même manière qu'en ville? C'est une question qu'on se posera aujourd'hui dans les routes musicales. Les campagnes, elles, revendiquent une vraie identité rurale, plutôt on dira une logique urbanophile. On confond aujourd'hui campagne et province, où aujourd'hui en France, Paris serait la seule ville de France qui permettrait de vivre une vie urbaine et aussi de jouer un rôle clé dans la mondialisation. On joue donc sur les clichés, c'est-à-dire la ville synonyme de pollution, de stress, alors que les campagnes, elles, seraient de nouveau plus libres, plus simples, où la vie serait complètement différente de la ville. Alors, les espaces urbains en France, c'est... Je rappelle, c'est 80% de la population française qui y vit. Un processus d'urbanisation qui se traduit par une spectaculaire extension spatiale. C'est-à-dire, la ville ne fait que s'agrandir. Et donc, ça, aujourd'hui, c'est très difficile de définir ce qui est urbain et ce qui est rural. Alors, l'étalement urbain, lui, entraîne le mitage, c'est-à-dire, ça grignote sur les zones rurales. Tout simplement, ça c'est dû à une augmentation des mobilités et de la citadisation des espaces ruraux. C'est-à-dire que les espaces ruraux, aujourd'hui, nous reverrons ça sur notre route musicale, revendiquent des nouvelles centralités, des nouveaux pouvoirs. Et donc, en fait, cette extension des aires urbaines pose la question de la protection de l'environnement. Alors, face à la globalisation, le monde paysan, lui, a disparu ou est en train de disparaître. Avec lui, ses règles, ses habitudes, ses traditions. Je vous rappelle que le paysan est celui qui façonne le paysage et qui donne à la France aujourd'hui toute sa diversité géographique. Alors évidemment, la campagne française ne ressemble absolument plus à celle du 19e. Elle n'est même plus proche de celle du 20e siècle et beaucoup la regrettent, et en particulier Charles Aznavour dans sa chanson « Moi je reste là » sortie en 2015.
Les jeunes ont quitté le village, seuls quelques vieux restent accrochés à une idée, à une image, morte mémoire du passé. Et Jésus en croix réalise, après 2000 ans révolus, que Dieu même a quitté l'église, dont les cloches ne sonnent plus. Et moi je reste là, où je naquis la guerre, pour travailler la terre qui me revint de droit, hérité de mon père, qui lui-même à son tour l'a reçu de son père un jour. Et moi je reste là, dans la maison de pierre, là je rends sédentaire et tout est dit pour moi. Ma femme au cimetière et les enfants partis, n'ayant plus rien à faire ici. L'épicier a pris bagage, le boulanger s'en est allé, fini naissances et mariages, fini fêtes enrubannées. La poste a perdu les adresses, les rues sont vides et désertées. Adieu le chant de la jeunesse, seul le vent pleure dans les prés. Et moi je reste là, faisant toujours de même, sans Noël ni carême, par temps chaud ou frima, ressassant mes problèmes. Je travaille à plein temps, je récolte et je sème au vent, et moi je reste là, à faire et à refaire les gestes millénaires que tant d'autres avant moi, durant leur vie entière, depuis la nuit des temps, ont appris et su faire avant. Après les quelques vieux qui restent, mais ne seront plus là demain, qui reprendra les simples gestes que nous ont légués les anciens. Planter le soc dans la caillasse, semer le grain, manier la faux, nourrir les bêtes et rendre grâce chaque jour qu'il fait au plus haut. Et moi je reste là, avec mes mains calleuses, sachant que la faucheuse ne me ratera pas. Elle viendra à la gueuse un matin me chercher dans ma vieille vareuse usée. Et moi je reste là, dans ce coin de misère, sur ce lopin de terre, mon seul bien ici-bas. Où irai-je d'ailleurs? Je sais bien que pour moi, vieilli et solitaire, même au bout de la terre, il n'y a pas d'ailleurs.
Charles Aznavour, face à la désertification des campagnes, nous propose donc de recréer des villages avec une population migratoire. Alors cette chanson est encore très nostalgique des anciennes sociabilités qui étaient créées dans les campagnes françaises essentiellement au XIXe siècle. Il faut bien comprendre en effet que la France est un pays rural. Il l'a toujours été au XIXe siècle, même jusqu'au XXe siècle. La France est un pays rural avant la grande industrialisation du milieu du XXe dans les années 50-60. Donc il est vrai que les liens de sociabilité, les règles de vie de tous les jours, ce désir de vivre ensemble étaient construites autour de la vie à la campagne, c'est-à-dire rythmées par la vie des champs. Donc Aznavour chante le déclin démographique qui a des conséquences sur le dynamisme de ces espaces ruraux. Bon, il est clair qu'il a raison quand il chante que la population baisse. C'est vrai, dans les campagnes, les services et les équipements nationaux disparaissent, c'est la fermeture des postes, c'est la fermeture des petites écoles, et puis on en tient responsable pour comme le principal facteur de la mort des villages. Autre conséquence, c'est l'abandon des terres. Hein, il faut savoir qu'il y a 20% du territoire en France qui sont en friche actuellement. Bon, certes, la déprise conduit à la décomposition des sociétés rurales, il y a une perte de l'identité paysanne française. Les espaces ruraux, nous l'avons dit tout à l'heure, s'intègrent de plus en plus dans les espaces urbanisés. De là à ce que nos campagnes soient recréées, notre vie paysanne soit recréée avec des migrants, là, il y a un énorme pas, puisque même si Aznavour chante cette nostalgie, il est très difficile pour les paysans qui reviennent dans les, dans ces nouvelles dans ces campagnes, de pouvoir investir sans capitaux, eh bien, cette campagne agricole, nous dirons. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, la frontière entre la ville et la campagne est très poreuse. Les pratiques et les comportements que l'on trouve, eh bien, dans les villes et dans les campagnes se ressemblent et s'homogénéisent. L'espace rural n'est donc plus agricole, quoi qu'en pense notre Charles Aznavour. Les activités sont diffuses, tourisme, industrie, mais surtout lieu de vie avec des règles urbaines. Et là, pour le coup, je vous propose un petit film promotionnel sur l'Auvergne et on en reparle.
L'avantage en Auvergne, c'est quand on décide de faire un barbecue, eh ben on n'est pas obligé d'importuner ses voisins. Moi, par exemple, je fais le mien au bout de mon jardin. Mon jardin, je vous le montre. Vous voyez le petit chemin là qui monte là. Ben, vous le suivez. Vous remontez le petit col là qui doit faire je sais pas combien. Et ma maison, vous voyez la tache noire là-bas au fond. Ben, c'est pas ça. Ma maison, elle est derrière la montagne. Quand je pense qu'à Paris, je faisais mon barbecue dans la cave. Ah, là, c'est le moment des petites herbes de Provence, chérie, s'il te plaît. Parce que moi, un barbecue sans herbes de Provence, c'est même pas la peine de m'en parler. Hein. Moi, je suis un intégriste de la saucisse.
Merde, je crois qu'on les a oubliés. Oh. Ouais, mais non. Bon, t'as ton portable ? Ok, la besoin, je la mets dans ta poche. Bon, qu'est-ce que tu vas chercher ?
Herbe de Provence.
Ok, super. Et tu prendras du râpé en même temps. D'accord ? Bon, et ben. Voilà. Chérie ! Fais attention à toi, hein ! Ça lui arrive tout le temps d'oublier un truc.
Donc il s'agit d'un film promotionnel sur l'Auvergne pour attirer la population citadine qui a été tirée du site Auvergne Life. Donc il y a plusieurs petits films avec un acteur principal assez comique et donc avec humour. L'objectif de la région Auvergne, c'est d'attirer les populations pour profiter pleinement de la vie à la campagne. Donc on décrit rapidement, hein, vous l'avez entendu, ils font un barbecue dans le jardin, enfin un barbecue dans le jardin dans les montagnes de l'Auvergne, et c'est le jardin de notre citadin parisien qui est arrivé en Auvergne, et il nous montre son jardin, et il y fait un barbecue, il a oublié les herbes de Provence. Alors là, je vous conseille d'aller voir le petit spot. Il est obligé de reprendre ses chaussures de marche, sa tente, sa boussole, pour aller chercher ses herbes de Provence chez lui, parce que c'est beaucoup trop loin. Alors tout simplement pour dire que vivre à la campagne aujourd'hui, donc ce ne sont plus nos paysans, mais c'est nos citadins qui défendent un nouveau cadre de vie, plus près de la nature, et pourtant, tous les lieux de sociabilité, eux, ont tendance à disparaître. Le café, la poste et les écoles. Donc en fait, nos citadins vivent repliés sur eux-mêmes à l'intérieur de leur maison. Et par contre, l'Internet est nécessaire pour leur vie de tous les jours. De plus, les campagnes deviennent des espaces périurbains que vous connaissez tous, c'est-à-dire les lotissements. Hein. Ces néo-ruraux veulent un retour au vert, mais eux, ils continuent de travailler en ville. Et donc, ce qui oblige une motorisation. 82% des ménages sont motorisés. Le déplacement quotidien est obligatoire. Vous voulez une baguette de pain, vous allez travailler, vous êtes obligé de prendre la voiture. Donc on ne vit plus en autarcie comme les paysans au 19e ou au début du 20e. Ce qu'on vient chercher dans les campagnes, c'est le calme, c'est les grands espaces, et puis, conséquence, les liens et les lieux de sociabilité, eux, ont changé, et c'est ce que Kent nous chantait déjà en 1994 avec « Allons à la campagne ».
C'est le week-end, fini la semaine, allons à la campagne pour nous refaire une santé, rien de tel que la campagne. Je prends la glacière, le pack de bière et un bon pain de campagne. Les pâtes au gaz, les chapeaux de paille, les bâtons la campagne. Côté les voies ferrées, mais loin de la centrale, dans un petit bois, après manger, on part faire une balade. Et quand bien même on est à pied, je te fais le coup de la panne.
T'ennuyer toute seule à la campagne, sans tes copines, ça se fait le bagne. Bon ben, tant pis pour la campagne.
Kent, allons à la campagne en 94, eh bien, nous chante une ruralité totalement factice. Si la population devient plus jeune, les campagnes se citadinisent, on y vient se reposer, boire des bières ou bien construire sa maison secondaire. On vient réhabiliter les vieilles maisons paysannes des campagnes françaises, mais c'est tout, la campagne, elle devient donc citadine. Alors résumons dans cette introduction des routes musicales, les populations s'accroissent dans les communes rurales. En effet, le solde migratoire depuis les années 90 est positif. Des petites communes deviennent aujourd'hui de vraies couronnes périurbaines des grands centres urbains. L'étalement urbain qui nécessite donc un nouveau mode de vie, une mobilité accrue, pratique de résidence multiple, cadre de vie très agréable et un nouveau tissu économique qui se crée avec une croissance de l'emploi rural et une diminution de l'emploi agricole. Eh bien, tout ça, ça a une explication. Alors, on va faire un petit retour en arrière, hop, et on va étudier un peu ces espaces ruraux d'aujourd'hui et voir notre problématique sur le côté de la fin du monde paysan. Alors, on peut parler d'une fin des paysans à partir déjà de 1850. Donc, dans la mesure où le secteur agricole dès 1850 employait à peu près la moitié des actifs en France. Et puis, très rapidement, ça a connu une chute rapide tout au long de la fin du 19e et au cours du 20e siècle. Donc, en particulier avec l'industrialisation et la mécanisation dès les années 1950, cette moitié, elle se divise déjà par 3 entre 54 et 75, puis par 2 entre 75 et 99. En 2008, les derniers chiffres officiels, eh bien, c'est 3,8% des actifs. Il n'y a qu'à voir, hein, vous demandez à vos enfants s'ils veulent devenir agriculteurs, eh bien, il n'y en a plus beaucoup, voire pas du tout. Donc, cette fin des paysans, elle s'explique évidemment par l'exode rural qui débute vers la fin du 19e siècle dans toute l'Europe occidentale et puis qui va s'accélérer en France jusqu'aux Trente Glorieuses. Donc les paysans quittent les campagnes car ne peuvent plus investir pour moderniser les campagnes. Les exploitations dès la fin du 19e sont trop petites et elles suffisent juste à nourrir les familles. Donc ces familles paysannes quittent leurs terres, elles sont fragilisées par un manque de revenus et donc ce manque de revenus ne permet pas d'investir. Et au contraire, il est important d'agrandir ces exploitations et de les moderniser. Donc on peut nuancer cependant ces propos parce qu'il y a les ouvriers, en fait les paysans autour des villes, on les appelle plutôt les ouvriers agricoles, eux arrivent à non pas faire fortune mais à mieux vivre autour des grands centres urbains. Certains paysans, en fait, travaillent la journée à l'usine et puis eh bien, le soir rentrent pour continuer à exploiter la ferme. Alors, qui mieux que Jean Ferrat en 1964 dans la montagne pour nous chanter le malheur des paysans et puis surtout cet exode rural. On écoute.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver.
Cette chanson mélancolique et populaire dénonçait l'exode rural et encensait le retour à la terre. Alors il faut s'imaginer la France en 1964. Elle est nouvellement urbaine, elle est en effervescence, on est dans l'époque des Trente Glorieuses. Cette année-là, le secrétaire général du PC, Maurice Thorez, mourait, le général de Gaulle régnait, Andy Warhol sortait son diptyque de Marilyn, une HLM en construction s'effondrait à Paris et Jean Ferrat s'installait à la campagne après avoir écrit en 64 La Montagne. Alors, il s'installe où, Jean Ferrat ? À Entraigues-sur-Volane, exactement dans le sud ardéchois, celui des châtaigneraies sur les flancs des volcans éteints. Donc, il est vrai qu'un ciel bleu outre-mer à midi, des étés brûlants et des hivers neigeux, tout à fait paisibles pour y vivre et donc pour écrire. Alors, non pas que Jean Ferrat eut dans le sang vivarois, dans ses veines, toute l'Ardèche et puis toute la paysannerie. Il faut savoir que ses parents étaient juifs émigrés de Russie, qui s'étaient d'abord installés dans une belle villa de Vaucresson, puis dans un appartement aménagé dans l'hôtel de l'Anglais à Versailles, donc il fait partie d'une bonne famille. Mais c'est au cours d'une visite à la maison de la culture de Bourges que la vie du jeune sympathisant communiste prend un virage à 180 degrés. Il y rencontre Gabriel Monet, un autre compagnon, et Jean Saussac, un peintre et décorateur prolifique qui est basé en Ardèche. et lequel le convainc de venir découvrir son village, Entraigues. Donc c'est un vrai coup de foudre hein, pour Jean Ferrat, et l'essayer, hein, c'est bien, c'est le cas de le dire, c'est l'adopter. Donc la boucle est bouclée, Jean Ferrat s'installe en Ardèche, et puis c'est sur cette terre sans concession qu'il va y acheter une vieille ferme. Donc le paysan gratouille sa guitare, il est à la recherche d'une mélodie à la fois simple et éloquente, une mélopée assez haute qui mérite une petite flûte et puis un petit hautbois sans basse et que ça s'échappe de ses doigts, quoi. Donc la montagne est née à ce moment-là. Bon, alors, Jean Ferrat, on voit ça comme de la variété, mais il faut bien voir que l'artiste y jette un nouvel amour pour cette région. Et puis, surtout, il fait frissonner un pays qui est beau, un pays brut, qui l'inspire, un pays paysan. Et donc, il y a véritablement toute cette vision revendicateur de la chanson engagée. Hein. Pensez donc qu'il brocarde l'habitat loyer modéré, c'est-à-dire les HLM qu'on avait vus dans notre ancien numéro. Il brocarde la volaille qui est produite de façon intensive aux hormones, alors que pour lui, bah, c'est la poule au pot, hein. c'est ce poulet qu'on élève en hors sol, et puis évidemment le formica, cette industrialisation du meuble qui ferait frémir aujourd'hui Ikea. Donc voilà, et ce dénominateur commun des amis prolétaires, et même les fonctionnaires, ils prennent pour leur grade. Donc il est libre à ce moment-là, en 64, Ferrat, il est fou, il est sage, et donc il chante cet exode rural, il a le respect de l'ouvrage, du bel ouvrage, du courage, de l'endurance, de ces vignes qui donnent ce vin, de ce minimalisme paysan qui n'était pas la pauvreté, hein. C'est ça, justement, Jean Ferrat ne chante pas la pauvreté des paysans, mais il vivait avec le minimum, et puis en fonction du calendrier. La montagne dénonce l'urbanisation, la perte des valeurs terriennes, et puis un véritable douloureux constat que les villages, déjà dans les années 60, se meurent dans l'indifférence totale générale. Et puis, face à ça, on a une agriculture qui se mécanise, et puis la mort du paysan dans les années 60 est annoncée, et Bourvil nous le disait déjà en 1946 avec le ministère de l'Agriculture.
Monsieur le ministre, vous avez la parole.
Ah, merci. Non. C'est en tant que ministre de l'Agriculture et représentant de la paysannerie française que je vous parlerai ce soir. Je m'adresserai plus particulièrement aux paysans des villes. Paysans des villes, me direz-vous, chose paradoxale. Je sais, mais je vais préciser. Je veux parler des paysans qui ont laissé la ville pour aller à la terre, pour aller à la ville. Et justement à cela, je leur demandais de retourner à la terre, pour retourner la ville, pour retourner la terre. La terre. Certains hésitent, ils sont pleins d'hésitation. Mais je leur dis non, mais non. Mais non. N'hésitez pas, et ne dites pas comme la femme du grand compositeur Georges Bizet, Marie, je crois, qui disait j'y vais pas. Non, allez-y, n'hésitez pas. Ne soyez pas honteux, car le cœur qui bat sous la blouse du paysan vaut bien celui qui bat sous le chapeau du citadin. N'abandonnez pas les belles plaines de France, la plaine du Berry, la plaine de la Beauce et la plaine Saint-Denis. Et tant que je serai ministre, et mon ministère peut bien durer un mois ou deux, il n'y a pas de raison, mais je ferai une campagne pour la terre, car au fond, sans terre, il n'y aurait pas de campagne. Et comme l'a dit Fénelon, pour que la France reste un pays cultivé, il faut des cultivateurs. Il en est un jadis qui parla de la terre. Ce fut Christophe Colomb, qui lui, à force de dire terre, ben, il a découvert l'Amérique. Je sais, vous me répondrez, c'était pas difficile. Avec des gratte-ciels aussi hauts, ça se voyait de loin. Mais quand même, fallait-il y penser? Malheureusement, dans le monde entier, il y a trois fois plus d'eau que de terre. D'ailleurs, tous les savants du monde nous le diront, le savant de Paris, de Londres, de Washington et les savants de Marseille, qui eux aussi ont fait mousser la chose, si j'ose m'exprimer ainsi. En vérité, j'ose, car je n'ai pas peur des mots. Et si je vous disais qu'il faudrait pomper toute l'eau de la terre, ce ne serait pas une bonne idée?
Oui. Bravo.
Hein? Vous voyez mon audace? Malheureusement, je sais que pomper l'eau d'un côté pour la rejeter de l'autre, vous allez me répondre, c'est bête. C'est pourquoi je n'insisterai pas sur la question. D'ailleurs, d'autres savants comme moi se sont penchés sur le problème de l'eau et ils s'y sont noyés, mais avec la potence penchée. Ainsi, chers amis, voici mon discours terminé. Je n'ajouterai pas une conclusion. Elle est toute trouvée. C'est vous qui la ferez. Car vous avez bien compris que j'étais celui qui allait de l'avant. Et vous allez venir tous avec moi pour pas que je sois tout seul. Et pour terminer, avec moi en avant, je vous dis, allez,
La mécanisation de l'agriculture dans les années 50-60 s'accélère afin de produire plus et plus vite, et donc appauvrit la main-d'œuvre. En mars 64, une foule immense se presse dans les allées du parc des expositions de la Porte de Versailles. Lors de cette folle semaine, le tout nouveau salon comptabilise 300 000 visiteurs. Le salon, le fameux salon de l'agriculture, qui, sous l'impulsion du ministre de l'Agriculture de l'époque, Edgar Pisani, remplace le vieux concours général agricole qui se tenait chaque année depuis 1870. Et ce changement de nom traduit une volonté très précise de faire place nette et de faire entrer l'agriculture de plein pied dans la modernité qui s'est déjà abattue dans les campagnes françaises. À cette époque, dans les années 50, lorsque nous chante Bourville le ministère de l'Agriculture, on compte actuellement à ce moment-là 1 million de tracteurs agricoles en France. Et cette mécanisation se poursuit. Les machines sont devenues une donnée indispensable à la production agricole moderne. Alors il est vrai que ces années-là sont celles d'une transformation rapide de l'agriculture française. Les tracteurs, les moissonneuses-batteuses se répandent comme une traînée de poudre sur toute la France. C'est une véritable révolution qui est venue notamment du plan Marshall américain au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a aussi des innovations de l'INRA. Alors l'INRA, c'est l'Institut National de la Recherche Agricole qui est créé en 1946. Et puis à cela, vous ajoutez la politique agricole commune en 1962 avec la création de la Communauté économique européenne. Et donc, pour les agriculteurs, c'est un bouleversement qui est considérable. En 1946, on avait 10 travailleurs agricoles qui nourrissaient 55 personnes. En 1975, les 10 mêmes agriculteurs nourrissent 260 personnes. Donc, ça a des conséquences majeures, évidemment, sur le monde paysan. Et Henri Mendras, qui est le grand sociologue en 1964, décrit le malaise paysan dans un livre qui est devenu un classique et au titre très évocateur, qui est « La fin des paysans, les petits agriculteurs ne pourront pas survivre, les petits vont crever ». Donc pour les agriculteurs français et puis les traditions des petites exploitations, des bocages que vous trouvez en Bretagne, en Normandie ou même dans l'Isère, dans le nord de l'Isère, disparaissent pour ces grosses exploitations et voilà, tout le drame est là. Donc à bien des égards, la décennie des années 60 marque une vraie transition. On entre dans un monde agricole et dans une société qui se modernise et qui s'urbanise. Et aujourd'hui, on peut dire que l'agriculture moderne a atteint ses objectifs. Ça ne s'est pas fait sans que les agriculteurs aient en payé le prix, mais aujourd'hui, l'agriculture nourrit la France et puis peut nourrir une partie de l'Union européenne. Alors, la vie dans les campagnes s'en est trouvée totalement bouleversée et l'environnement, elle aussi, totalement dégradé. En effet, isolé sur d'immenses exploitations modernisées, l'agriculteur aujourd'hui de 2015, lui, est inquiet. Inquiet car contraint par des normes environnementales qui sont de plus en plus fortes, contraint par des investissements de plus en plus importants, des banques qu'ils acculent avec d'énormes emprunts, l'agriculteur de 2015 est inquiet. En 1999, il n'a pas fallu attendre aujourd'hui 2015 pour que Pierre Bachelet nous chante le malheur des paysans du XXe siècle.
Les routes musicales sur Couleur FM.
Ils sont venus sans savoir ma chanson. ils ont vu toutes les terres, la maison. Le notaire s'est assis au soleil, pour bien faire j'ai sorti les bouteilles. Ils ont vu toutes les terres, la maison. Ils ont bu sans savoir ma chanson. Y a des jours où je voudrais être coq et gueuler comme un chanteur de rock, réveiller tous les cons de la terre, les banquiers, ministres et ministères. Ils sont venus visiter ma maison. Ils l'ont vu sans savoir ma chanson. Paysan, tu es paysan. Tu seras la chaleur l'été et l'hiver le froid. Paysan, tu es, on te tuera pas s'il n'y a plus de blé qui le plantera. Ils ont pris sans savoir ma chanson. Les crédits, bilan d'exploitation. Les banquiers se sont mis sous la traîne. Les banquiers, ça n'aime pas le soleil. Ils m'ont dit qu'ils prenaient la maison. Ils l'ont dit sans savoir ma chanson. Il y a des jours où je voudrais être un cheval et partir une bonne fois en cavale. Y a des jours où je voudrais être un chien, sans collier, sans tatouage et sans rien. Ils m'ont dit qu'ils prenaient la maison. Mais pour moi, j'ai gardé ma chanson. Paysan, tu es paysan, tu seras la chaleur l'été et l'hiver le froid. Paysan, tu es, tu le resteras. On sait ce que l'on est, on ne sait pas ce qu'on sera. Plaine, oh ma plaine, toi qui connais ma chanson, tu sais ma peine et ma passion. La terre est un destin qui gronde, et la raison est si profonde. Paysan, tu es, paysan, tu seras. On voudrait changer, on ne change pas. Paysan, tu es, on te tuera pas s'il n'y a plus de blé qui le plante. Paysan, tu es paysan, tu seras la chaleur en l'été et l'hiver le froid. Paysan, tu es.
Alors, le tableau très noir que nous peint Pierre Bachelet sur le monde paysan en 99, nous pouvons le ramener en 2015, sur l'été 2015, avec les manifestations violentes des éleveurs qui mettaient en avant un travail difficile et éprouvant. Les agriculteurs ne sont pas en reste. Hein. En effet, en juillet 2015, les éleveurs ont manifesté à travers toute la France, la Manche, la Bretagne, les Pyrénées-Atlantiques, pour exprimer leur colère quant à la baisse du lait, du prix du lait et de la viande. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû à la libéralisation des prix, à l'abandon des quotas laitiers par l'Union européenne qui ont appauvri les éleveurs français. Donc, il y a un libéralisme économique à outrance, nous en avons déjà parlé dans nos anciennes émissions, plus une déréglementation du marché, eh bien, ça précarise et, les éleveurs français. Alors, le secteur laitier, c'est pas compliqué. Il y a trois grosses entreprises en France qui achètent le lait. Elles se mettent d'accord, elles font des ententes, elles baissent les prix d'achat, elles achètent le lait moins cher que ça ne coûte, et donc les revenus diminuent, alors que la matière première, par exemple, dans les années 2012-2013, elle avait augmenté, et donc les revenus des éleveurs diminuent par conséquent. À ça, vous ajoutez aussi la concurrence des pays étrangers. Par exemple, la viande états-unienne qui n'est encore pas sur le marché européen, mais qui devrait l'être d'ici prochainement avec le traité de libre-échange qui est en train de se faire avec les États-Unis et l'Union européenne ou Argentine, eh bien, qui n'ont pas les mêmes contraintes sanitaires que les nôtres. Et donc, toutes les contraintes sanitaires environnementales que nous avons dans l'Union européenne, qui coûtent de l'argent aux éleveurs, eh bien, on ne pourra pas concurrencer la viande américaine dans les prochaines années. Alors évidemment, tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir puisque le monde agricole revient à la mode. Et pour preuve, le nouveau titre d'un petit chanteur français qui commence à monter, qui a été sponsorisé par Radio France, qui s'appelle Yvan Marc et qui chante « J'apprends » et qui rend hommage aux agriculteurs. Pas n'importe quels agriculteurs, à ceux qui tournent le dos à l'agriculture spéculative. On y revient après, on écoute.
Je cultive la terre de mes pères, je prends soin des prairies de mes mères, j'ai le pays dans le sang, je sens les éléments dans mon sang. Je cultive la terre à mon image, cette terre tendre et sauvage, cette terre dure qui s'étend, cette terre libre qui m'apprend. J'apprends la pluie, j'apprends le vent, et puis j'entends ce que le silence me dit. J'apprends le ciel, j'apprends la lune, je la comprends quand elle danse, je la suis. La terre, je l'aime trop pour la blesser, je veux la rendre plus belle, je veux la rendre plus saine, qu'elle nous pardonne nos errances. La terre, je la connais trop pour lui mentir, elle est l'alliée que j'admire, cet allié naturel qui nous pousse quand les courants nous freinent. J'apprends la pluie, j'apprends le vent, et puis j'entends ce que le silence me dit. J'apprends la lune, je la comprends quand elle danse, je la suis. La terre, elle me connaît par cœur, elle connaît mes humeurs, écoute mes douleurs, accompagne mes rêves. La terre, elle me donne le sens, me rappelle les saveurs, ravive les douceurs, les couleurs de mon enfance. J'apprends la pluie, j'apprends le vent, et puis j'entends ce que le silence me dit. J'apprends le ciel, j'apprends la lune, je la comprends quand elle danse, je la suis. La pluie, j'apprends le vent, et puis j'entends ce que le silence me dit. J'apprends le ciel, j'apprends la lune, je la comprends quand elle danse, je la suis.
Yvan Marc. Donc, rend hommage à cet agriculteur qui tourne le dos à l'agriculture spéculative, c'est-à-dire cette agriculture libérale qui produit à outrance pour une agriculture plus raisonnée et raisonnable. Alors, évidemment, certains paysans sortent aujourd'hui leur épingle du jeu. Il y a ceux qui produisent en respectant les nouveaux labels, les AOC, les AOP, ou qui produisent en bio. Bon, il faut bien comprendre que ce type d'exploitation aujourd'hui, c'est qu'une niche, hein. Ça ne dépasse guère que 20% de la totalité de la production agricole. L'intégralité de l'agriculture française ne pourra pas s'aociser, on va dire, sinon on va devoir payer beaucoup plus cher les produits agricoles. Alors le vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est l'attractivité du secteur. L'installation de jeunes agriculteurs est devenue très difficile et Yvan Marc nous chante très bien, malgré tout le bonheur qu'a cette personne à retourner vers la terre. Donc les exploitations, le souci c'est qu'elles se sont beaucoup agrandies, elles sont importantes, nous l'avons dit, c'est de vraies entreprises qui emploient et donc qui nécessitent de très lourds investissements. Alors, il y a deux types d'agriculture, hein, cette agriculture spéculative intensive où l'agriculture est la qualité est moindre mais qui a toujours sa place. Et puis on a les agricultures plus qualitatives qui sont avec des exploitations plus petites, avec un respect des traditions, de l'environnement. Donc c'est ces exploitations dites bio ou avec des labels ou qui vendent en direct comme les AMAP ou aujourd'hui on trouvera dans le nord de l'Isère les saveurs paysannes ou directement les agriculteurs. Eh bien, viennent vendre leurs produits directement aux consommateurs sans intermédiaire, donc sans les supermarchés en fait. Donc en fait, il est vrai que malgré tout ça, même s'il y a un retour, une envie des Français de consommer différemment et de manger des produits de très bonne qualité, bon, ça c'est typiquement français, il faut bien comprendre que les métiers agricoles ne font pas envie, hein. Bon, pas plus que dans les autres pays de l'Union européenne, on dirait. Bon, exception faite, peut-être pour tout ce qui touche au vin et au champagne, bien entendu. C'est Jean-Paul Charvet, qui est géographe, qui nous le disait déjà en 2012 dans le Café Géographie, qu'il réaffirme. Il y a peu de parents aujourd'hui qui souhaitent que leurs enfants travaillent dans le secteur primaire. Donc l'agriculture pourrait être, c'est une réflexion, un lien avec le monde des villes et des espaces périurbains. Il faut bien repenser tout ça. C'est-à-dire que l'agriculture, par ses marchés, par ses ventes à la ferme, par ses cueillettes, par ses fermes pédagogiques, par ses AMAP, permettent de créer du contact entre ces urbains, ces citadins, et puis le monde agricole. Et c'est là qu'il faut que ça change par rapport à ce monde paysan du 19e et du 20e siècle, qui était très fermé. Et bien là, ça permet de s'ouvrir. Et ça commence très bien. L'élevage, c'est pareil. On développe les loisirs. Les chevaux sont devenus une véritable filière, par exemple. Ça permet aussi de créer des nouveaux emplois. Alors, c'est des emplois qui allient à la fois tout le métier paysan agricole et puis le monde du tourisme. Et puis, il faut aussi des emplois qui sont liés au bâti. Il faut créer des structures d'accueil, il faut l'entretien. Alors, le danger, il est malgré tout dans le mitage des espaces agricoles. Et puis là, on va faire un petit clin d'œil à Michel Delpech, qui déjà en 77 nous chantait dans le Loir-et-Cher.
Ils me disent, tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson, tu ne penses plus à nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue, on dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Dans la boue, on dirait que ça te gêne de dîner avec nous.
Alors, vous sentez la boue du Loir-et-Cher à vos semelles. Michel Delpech prônait, hein, parce qu'on va utiliser le mot prôner, l'amour dans le pré et dressait un portrait assez tendre et ironique des agriculteurs et des espaces ruraux français dans les années 70. Justement, prônait plus ce rapprochement entre le citadin et l'agriculteur. Alors, les espaces ruraux français aujourd'hui tentent de se redynamiser, d'attirer de nouvelles centralités, hein, puisqu'ils ont tout perdu au côté agricole. Alors, certaines régions sont encore très isolées, par exemple dans le nord de la France. Alors pourquoi ? Qui connaît un déclin rural ? Tout simplement parce que c'était un monde ouvrier dans le nord de la France. Donc on a encore un chômage assez fort, et les ouvriers vivent dans les campagnes, et puis ce sont des ouvriers, ce n'étaient pas des paysans, et on a très peu d'équipements. Alors qu'on a des régions comme le nord de la France qui sont des espaces ruraux très isolés, on en a d'autres qui tentent une vraie reprise. Et par exemple, c'est ces espaces ruraux qui vont tenter de devenir des parcs naturels régionaux ou nationaux. Alors c'est le cas par exemple dans le Nord-Isère, du côté de la communauté de communes de l'île Crémieux, qui demande à avoir un parc régional tout autour de Crémieux pour redynamiser justement cet espace rural. Donc ça pour conséquence, eh bien, un gain démographique, il y a un développement des structures agricoles, et puis ces nouvelles dynamiques territoriales, eh bien, ça permet aussi de relancer des économies traditionnelles. Alors, je vais vous donner un exemple. Dans le parc national des Cévennes, eh bien, on a relancé la culture des oignons doux en terrasse. Voilà, un exemple particulier. Il y a aussi des espaces ruraux qui sont en reprise grâce au tourisme. On crée de véritables zones touristiques. Par exemple, c'est le sud-ouest de la France où on a un climat plus doux et puis la mer qui joue son rôle. Et donc, l'avantage, c'est aussi dans l'ouest de la France, on a un renouveau de ces espaces ruraux, eh bien parce que tout simplement, les terrains sont beaucoup moins chers. Ils sont beaucoup moins chers et c'est essentiellement dans les régions les moins industrialisées. Alors, par exemple, on a aussi dans l'Ardèche, dans les Alpes, dans certaines régions des Alpes ou dans le Jura. Alors, ces espaces périurbains, l'avantage, c'est qu'ils sont aujourd'hui de mieux en mieux reliés au pôle urbain. Donc, on a des installations industrielles qui vont s'installer tout autour de ces espaces. Alors, la nostalgie, aujourd'hui, est à la mode. Hein. La France paysanne serait, pour certains partis politiques et pour certains penseurs, le ciment de cette identité française qui, aujourd'hui, ne cesse de se fissurer, surtout depuis cette année terrible de l'année 2015, avec les différents attentats. On essaie de chercher un coupable. Donc l'espace rural, il est vrai, ne devient qu'un espace touristique, mais qui est fossilisé dans cette France d'hier. Donc il faut avancer, trouver de nouvelles solutions et permettre à ces campagnes de rentrer en contact correctement et différemment avec les espaces urbains. Alors, je vous remercie pour ce troisième numéro. J'ai utilisé pour réaliser cette émission les mutations récentes de l'espace rural en France, écrit par Philippe Madeline, qui est maître de conférence en géographie à l'université de Caen et qui est responsable du pôle de recherche société et espaces ruraux, mais aussi pour les cafés géographiques Quand la ville mange les terres agricoles du géographe Jean-Paul Charvet. Enfin, Thomas Snegaroff, journaliste sur France Info, a écrit « Le malaise paysan d'hier entre 64 et aujourd'hui en 2015 » et des articles tirés du Figaro « La France, son chanson ». Je vous retrouve pour un prochain numéro des Routes musicales qui sera consacré à la famille en France depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et nous terminons en musique avec une chanson pas très gaie, mais très belle, de Georges Brassens, « Pauvre Martin » en 1953.
Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la lèvre un douchant, avec à l'âme un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant, de l'aurore jusqu'au couchant, il s'en allait bêcher la terre, en tous les lieux, par tous les temps. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, ni l'air méchant, ni l'air jaloux, ni l'air méchant. Il retournait le chant des autres, toujours béchant, toujours béchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier chant, de labourer son dernier chant, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant, en faisant vite, en se cachant, et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dors sous la terre, dors sous le temps.
Et maintenant, où on va maintenant?
J'en sais rien, tu nous emmerdes.
N'empêche que j'aimerais bien savoir où on va, comme ça, simple curiosité.
Mais il t'a dit qu'il en savait rien, que tu l'emmerdais, alors...
Tu fais pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange. T'as jamais de vraie raison de se biler. Ils peuvent pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un.
On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où, jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
Pourquoi pas?
Les routes musicales sur Couleur FM.